سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، أرجو أن تسمعوا جيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، donc apparemment sur le groupe il y a eu beaucoup de messages, j'avais pas vu tout ça. J'ai pas eu le temps de voir. Donc je verrai ça dès que je pourrai. Ah non, il n'y a pas eu. طيب. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نوفو كور سور مجالس شهر رمضان، les assises du mois du Ramadan, de Ramadan, de notre cheikh Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah. طيب. Donc on va commencer par l'introduction du Cheikh. Alhamdulillah alladhi a'ana bi fadlihi al-aqdam as-salika وأنقذ برحمته النفوس الهالكة ويسر من شاء ليسرى فرغب في الآخرة أحمده على الأمور اللذيذة والشائكة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو العزة والقهر فكل النفوس له ذليلة عانية وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله القائم بأمر ربه سرًا وعلانية صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر الذي تحرض عليه الفرق الآفكة وعلى عمر الذي كانت نفسه لنفسه مالكة وعلى عثمان منفق الأموال متكاثرة وعلى علي مفرق الأبطال في المجموع المتكاثفة وعلى بقية صحابة والتابعين لهم بإحسان ما قرعت والأقدام السالكة وسلم تسليما. Donc ceci est la petite introduction de notre Cheikh Al-Uthaymin. Après donc cette introduction de notre Cheikh Al-Uthaymin, nous entrons dans la quatrième assise concernant le jugement de Qiyam Ramadan. Il n'y a pas de souci, Akhi, concernant l'introduction, quatrième. Concernant l'introduction, il n'y a pas de souci. Je ne pense pas que dans le livre en français, elle soit traduite. Je crois qu'il commence direct comme t'as traduit ici, comme t'as plutôt transcrit, retranscrit ici. Parce que comme c'est juste l'introduction du shir, c'est pas darori. C'est-à-dire que c'est pas nécessaire. Il y a une petite introduction, d'accord, alors. Il n'y a pas de souci, il manque juste deux lignes. Mashallah. Moi, ça prendra trop de temps si je traduis les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, à peu près les 10 lignes. Le PDF numéro 4, je vous l'envoie du côté des sœurs, je vais vous l'envoyer. Je vous l'envoie tout de suite. Voilà, c'est envoyé. Vous voyez? Il n'y a pas de. Pour ceux qui l'ont, pour ceux qui ont l'introduction, tant mieux. Pour ceux qui ne l'ont pas, c'est pas. Il n'y a aucun souci. Le Cheikh remercie Allah ou Ta'ala, l'aide d'Allah pour ses bienfaits. Immense, ses grâces, Allah Ta'ala, de par sa miséricorde, évite les gens de s'égarer, de la perdition, jusqu'à la fin de la traduction du Sheikh. Ce n'est pas une darora de traduire cela. Ensuite, il évoque le Cheikh, les bienfaits par rapport à trois compagnons, hein, les bienfaits de ses compagnons que sont Abu Bakr, Omar et Ali, radiallahu anhum. Voilà. Ensuite, le Cheikh commence. Ikhwani, laqad shara'a Allahu li'ibadihi al-ibadati wa nawwa'aha lahum liya'khudhu min kulli naw'in minha. Mes chers frères, Allah Ta'ala a légiféré à ses serviteurs diverses adorations, c'est-à-dire des genres différents, différents genres d'adoration, pour qu'ils puissent tirer profit, pour qu'ils puissent tirer profit de chacune d'entre elles. Donc dans la traduction, dans le livre original, pour qu'ils puissent tirer profit d'une part, de la part dans chaque genre, hein, puissent prendre une part de profit dans chaque genre. Kulli naw' minha binasib. Tamam? Wa li an la yamlu min naw'in al-wahid fayatruku al-'amala fayashqa al-wahid minhum wa yakhib. Allah Ta'ala également, et afin qu'il ne se lasse pas de pratiquer toujours la même, il finirait par s'enlacer et l'abandonnerait, ce qui serait la cause de leur malheur et de leur perte. Donc on constate ici encore une fois de plus les bienfaits et les grâces d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Et pour être plus général, comme vous le savez, Allah Ta'ala nous a mentionné que ces grâces sont indénombrables. Les grâces d'Allah Ta'ala, elles sont, on ne peut pas fixer un nombre tellement Allah Ta'ala a rempli les humains, a donné aux humains tellement de ces grâces. Il a instauré des pratiques obligatoires qu'il n'est pas permis de diminuer ou de délaisser. Il en a également légiféré d'autres qui sont surérogatoires, grâce auxquelles le musulman se rapproche d'Allah et parfait sa pratique. وَجَعَلَ مِنْهَا فَرَائِضَ لَا يَجُزُ النَّقْصُ فيها ولا إخلال، ومنها نوافل يحصل بها زيادة تقرب إلى الله والإكمال. فمن ذلك الصلاة فرض الله منها على عباده 5 صلوات في اليوم والليلة. نعم. Donc, il y a une faïda ici. En fait, tout au début, hein, dans le titre, il y a une faïda. J'ai été un petit peu chawesh avec les histoires de traduction. Dans le titre de cette 4e assise, intitulé « Fi hukmi qiyami Ramadan ». On prend, ça c'est l'assise, le titre de l'assise d'aujourd'hui, on prend le titre de l'assise précédente, le jugement, la troisième, hein, donc la troisième assise, le jugement du jeûne du Ramadan. Alors, pour faire travailler un petit peu la perception des étudiants, pour faire travailler leur perception, quelle est la différence entre l'assise de titre dans l'assise numéro 3 et la numéro 4, sachant que tous les deux commencent par le jugement? Quelle est la différence entre les deux? Dans le deuxième titre, c'est un peu trompeur. Il y en a un qui est obligatoire et l'autre surérogatoire. Alors, c'est bien, c'est une réponse, mais ce n'est pas la réponse. Jazakallah khair pour l'effort. Ce n'est pas la réponse. Puisque le jugement du jeûne dans le numéro 3, c'est le jeûne obligatoire. Et ici, le jugement du qiyam, ah oui, c'est une bonne réponse, mais ce n'est pas la réponse que moi j'attendais. Barakallahu fik, c'est vrai que c'est une bonne réponse. C'est une différence entre les deux, mashallah. Déjà pour la seule réponse, c'est formidable. Non, pas la différence de la récompense. La différence, c'est vrai, j'aurais dû peut-être spécifier. On parle du jugement du Siyam dans la troisième assise. Dans la quatrième assise, on parle du jugement de quoi? Il ne faut pas répondre le Qiyam. Hein. C'est quoi le Qiyam? Inch'Allah ta'ala, nous allons répondre. Ahsant, on parle du jugement de... Alors, on va accorder la réponse, la veillée nocturne. Mais le qiyam, oui, c'est ça, hein, c'est la bonne réponse. Mais ici, on parle de la prière. Parce que vous voyez que le cheikh, dès le début, nous parle de salat. Allah ta'ala a... Mais c'est vrai que le qiyam, c'est spécifique. Donc la différence... C'est que dans la troisième assise, on parle de siyam. Et dans la deuxième assise, on parle de prière. Donc, dans la troisième, c'est le jugement du jeûne. Et dans la quatrième, c'est le jugement de la prière. Et ça, c'est important. C'est important, c'est une méthodologie. Barakallahu fikoum pour vos réponses. C'est important, c'est une méthodologie. Pourquoi ? Parce que vous constaterez que même Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah, dans son ouvrage intitulé Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité, Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abd al-Wahhab, vous constaterez que dans la plupart des chapitres, à chaque fois il dit la différence entre le chapitre précédent et ce chapitre, ici, c'est telle et telle, telle chose. On doit être capable. Lorsqu'il y a deux choses qui se rejoignent, qui se ressemblent, qui sont similaires, Là, on parle de hukm dans les deux. Le jugement dans la 3 et le jugement dans les deux. Alors, quelle est la différence entre les deux? C'est que dans le troisième, la troisième assise, on parle du jugement du siyam. Et dans le quatrième, on parle du jugement du ramadan. Alors, si on aurait donné des points, les deux étudiantes qui ont répondu, on leur aurait accordé aux deux les points. Barakallahu fiikum. Tayyib. Alors, où en sommes-nous parmi ces pratiques religieuses obligatoires? Il y a les cinq prières dans la balance en termes de récompense. Allah a incité à en accomplir d'autres qui combleront les manquements de celles qui sont obligatoires et permettront de se rapprocher encore plus de lui. Ces autres prières, hein, comme vous le savez, Allah Ta'ala a donc ordonné les cinq prières obligatoires, puis Allah Ta'ala a également incité à accomplir d'autres qui sont nommés ici comme d'autres qui combleront les manquements. On appelle ça les prières surérogatoires. Alors, on a deux faïdas par rapport à la parole de Cheikh Al-Uthaymin ici, dans la parole que nous allons relire. Allah a incité à en accomplir d'autres qui combleront les manquements de celles qui sont obligatoires et permettront de se rapprocher encore plus de lui, à savoir que les prières surérogatoires, elles viennent combler tout le manque, elles viendront combler tout le manque, yawm al-qiyama, des prières obligatoires qui sont incomplètes ou qui contiennent du manque. Donc, on a parlé hier dans notre cours, on a mentionné une faïda, hein, sous forme de parabole, appuyée sur le bouton, on a dit, l'étudiant, il doit avoir une perception large, c'est-à-dire il doit savoir, comme c'est Allah Ta'ala mentionne, que il y a un tijara avec Allah Ta'ala. Il y a ce qu'on appelle un commerce de hasanet avec Allah Subhanahu wa Ta'ala. On a dit hier que pendant le ramadan, c'est la pêche au hasanet. Mais l'étudiant, il doit être vigilant et il doit avoir une perception très large de comment, c'est-à-dire il doit chercher là où il y a les plus grosses hasanettes. On a parlé de ça hier. Alors, ici, dans notre sujet de la prière, la faïda, c'est que le mois de Ramadan de jeûne. Concernant les prières, surtout surérogatoires, c'est une occasion inespérée. C'est une occasion inespérée de ramasser un nombre de prières surérogatoires que tu ne pourrais pas amasser dans d'autres circonstances autres que le ramadan. Ce qui veut dire que pendant le ramadan, tu peux multiplier ton compte en prières surérogatoires pour que le jour de la résurrection, non seulement il y a ton jeûne qui va combler tes manques généraux en bêtises, comme on l'a vu précédemment, en bêtises, en désobéissance à Allah, en injustice, etc. Mais non seulement tu peux remplir ton compte de prières surérogatoires, au cas, et c'est même pas au cas, c'est sûr, on a des manquements dans la prière pour combler. Alors, y a-t-il dans le chat? Excusez-moi de vous interrompre, quand vous parlez de manque dans les prières, ce sont les manquements de notre façon d'accomplir le salut, comme le manque de concentration par exemple, salat par salut. Le manque dans la prière, c'est large. C'est large. C'est tout ce qu'englobe le terme manquement. Ce n'est pas forcément le salut. C'est vaste, hein? C'est très vaste. Quelqu'un qui n'a pas pratiqué, qui a oublié de pratiquer un pilier, sa salat, elle n'est pas valable. Quelqu'un qui a oublié une rak'a, quelqu'un qui n'a pas pratiqué, c'est tout ce qui fait que, qui touche à la validité, à la salat. Non, pardon, je voulais écrire la salat. C'est mon correcteur. Manquement de notre façon d'accomplir la salat. Oui, c'est ça. Les manquements d'accomplir la salat. La concentration dans un certain contexte, oui, elle peut entrer en jeu. Parce que il y a des savants qui disent que la concentration, al-khushu', c'est pas forcément la concentration comme nous on le conçoit, être présent avec son cœur dans la salat. Donc ça, c'est sûr que c'est un gros manquement. C'est un gros manquement, ça peut aller loin dans la prière. Mais il y a également certains savants qui disent, il y a des savants qui disent que el khushu' fi salat, la concentration dans la salat, c'est le fait de bien, comment dirais-je, bien mettre les membres, pratiquer chaque position de la prière vient s'appliquer dans les positions de chaque membre par rapport à la prière, le qiyam, le fait d'être debout, le fait de s'incliner, le fait de prendre le temps entre chaque inclinaison, entre chaque recours, etc. Il y a des savants qui disent c'est ça la concentration, el khushu'. Donc ça aussi, ça peut être une forme qui fait qu'il y a un manque. C'est tout le manque dans la prière en général. Alors on peut pas tout citer parce que sinon là on va dédier un cours, on va faire un cours juste sur ça. Mais pour celui qui veut, il peut retourner plus d'infos sur ça. Il peut retourner à l'ouvrage de Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Il peut retourner à l'ouvrage de Cheikh Al-Albani, cet ouvrage intitulé « Sifat Salat al-Nabi », les caractéristiques de la prière du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et il prend tout ce qui a été décrit, dans « Sifat Salat al-Nabi » et il comprendra là où il y a des manques, là où on peut avoir des manques, etc. Et il comprendra que « Wallahu a'lam », à moins que certains font la salat avec perfection, hein, c'est ce qu'on souhaite à tous. Mais sinon, il ne faut pas passer à côté des rawatib. Par exemple, on va le voir à la suite, hein, rawatib, ce sont les unités de prière, hein, qui se trouvent, que l'on peut mettre en pratique après le maghrib ou l'isha, et avant également, al-rawatib. Donc on va en parler ici. Parmi ces pratiques religieuses obligatoires, il y a 5 prières dans la balance en termes de récompense. Allah a incité à en accomplir d'autres qui combleront les manquements de celles qui sont obligatoires et permettront de se rapprocher encore plus de lui. Donc la première faïda, on a dit, c'est que ces prières surérogatoires, elles sont immensément importantes dans le sens où elles vont venir combler. Elles vont venir combler les prières incomplètes. Et ça, ce n'est pas négligeable. Personne n'y peut dire, personne ne peut prétendre, moi c'est bon, mes prières sont complètes, je n'ai pas besoin de faire de surérogatoire. Attention, c'est un piège. Et la deuxième faïda dans la parole de Cheikh Al-Othaymin ici, attention, on ne doit pas passer à côté, le Cheikh nous dit, elles nous permettront, ces prières surérogatoires, de nous rapprocher encore plus de lui. Je ne sais pas si ça va être mentionné par la suite, mais j'ai lu l'assise numéro 4 et je n'ai pas le souvenir, wallahu a'lam, que le shir va mentionner ce dalil, mais Il y a un hadith du prophète alayhi salatu wassalam qui dit Allahu a'lam, c'est un hadith qudsi où Allah Ta'ala dit: mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les surérogatoires jusqu'à ce qu'il soit élevé en degré, aimé auprès de moi. Donc vous voyez également l'importance des prières surérogatoires. Donc ici, la deuxième faïda, je répète, ces prières surérogatoires, elles permettront également de se rapprocher encore plus d'Allah au Ta'ala. Et nous venons de vous mentionner un dalil. Assalamu alayka, la concentration mentale, c'est-à-dire de ne pas penser à autre chose aussi, tout à fait. Il y a des savants qui disent, Cheikh Abdelazak al-Badr, hafidhahullah, dans son explication de Sourat al-Fatiha, en nous mentionnant un verset du Coran, Cheikh Abdelazak al-Badr nous dit que c'est très grave de penser à autre chose, bien que, malgré qu'on sait que c'est pratiquement impossible. Les compagnons s'y sont essayés. Bien qu'on sait que c'est pratiquement impossible, on doit faire le maximum pour être concentré. Celui qui pense pendant toute sa salat à autre chose, Wallah Musta'an, il est possible qu'elle ne soit pas acceptée, Wallahu A'lam. Wafikum barakallah, il me semble, Allahu a'lam, il me semble, si je me souviens bien, que c'est Ara'ayta alladhi yukadhibu bid-din, fadhalika alladhi yad'u al-yatim, wa la yahuddu 'ala ta'ami al-miskin, fawailul lil-musallin, alladhina hum 'an salatihim sahun. Il me semble, 99%, que c'est ce verset qu'a mentionné Cheikh Al-Uthaymin, malheur aux prieurs. Fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Alladhina hum yura'un. Donc regardez la traduction, et c'est ce verset dont nous a mentionné Cheikh Abdelazak al-Badr pour dire que ils prient mais ils sont pas là. Ils prient, mais ils ne sont pas là. Malheur à eux. Wallahu a'lam. Donc, c'est de la faïda en plus pour vous. Hein. Donc, famine d'alika salat, on l'a dit. Alors, ziyadati tatawwa' min as-salawat takmilan li hadhihi al-fara'id wa ziyadatu fil qurba. إليه فمن هذه النوافل رواتب التابعة للصلوات المفروضة. C'est ce qu'on a dit. Donc, parmi celles-ci, les prières appelées al-rawatib, qui doivent être accomplies après les obligatoires. 2 unités avant la prière du Fajr, 4 avant celle du Dhuhr et 2 après. 2 unités après la prière du Maghrib et 2 après celle du Isha. Il y a aussi la prière de nuit pour laquelle Allah Ta'ala a vanté ceux qui y sont assidus. Donc, nous avons ici la parole de Cheikh Al-Uthaymin, Rahimahullah, qui nous donne des exemples de prières surérogatoires qui viennent combler les prières obligatoires et qui sont un rapprochement qui nous rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pas obligatoire, mais il faut savoir une chose, encore une faïda ici, concernant ce qui est obligatoire et ce qui ne l'est pas. Il faut que vous sachiez une chose, et ça c'est ce qui fait la différence entre les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les salafs, salafun as-salih, et nous. Quelle est la différence dans notre contexte ici? C'est que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ne cherchaient pas qu'est-ce qui est obligatoire, qu'est-ce qui est, ça c'est préférable, ça c'est moubah, ça c'est... Les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils pratiquaient tout. Donc, nous, si on veut suivre les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on ne doit pas, tout ce qui est surérogatoire, comme là, ici, on doit y mordre à pleines dents, à pleines dents. Parce que regardez ce qu'il y a à côté. Ne croyons pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous a mis ça pour décorer comme ça. On sera bien content le jour de la résurrection. Croyez-moi, pourquoi la plupart des gens, du moins beaucoup de gens, vont dire « Ya laytani kuntu turaba ». Oh, si je n'aurais pu être qu'une feuille, plutôt que de la terre, turab. Et d'autres diront, si, oh Allah, si je pouvais retourner, pourquoi ? Ben pour en faire plus. On ne se contente pas du minimum. Vous savez, concernant les prières, surérogatoires. Inch'Allah ta'ala, Tayeb, tu me dis si y a un bruit de travaux. Un bruit, si ça gêne et si on l'entend beaucoup, tu me dis, je change de pièce, Inch'Allah. Je changerai de pièce. Non, c'est bon, Tayyib. Donc, pour vous dire, la faïda ici, c'est que on ne peut pas et on ne doit pas se contenter juste de l'obligatoire. Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui se contente uniquement de l'obligatoire, il ne va pas aller au paradis ou ce n'est pas suffisant ou... C'est pas ça. C'est que celui qui est précautionniste, et en réalité le musulman et le talibul ilm, il doit être précautionniste. Ça veut dire quoi précautionniste ? Tu peux pas prendre le risque d'arriver le jour de la résurrection avec des obligatoires qui sont pas complets et t'as rien pour les combler. Tu peux pas prendre ce risque. Là, on parle pas d'un rendez-vous pour un travail où « Oh, mon CV, il est pas complet. » Là, c'est ton CV devant Allah ou Ta'ala. Où tout est noté et tout est répertorié, le jour de la résurrection, on va te sortir ton cahier. Alors, ça sera ou à droite ou à gauche. Tu n'as pas le droit de prendre le risque. Tu ne peux pas prendre le risque. Prends le risque sur l'argent. Prends le risque dans tout ce qui concerne cette vie d'ici-bas. C'est éphémère. Mais ne prends pas le risque pour l'au-delà. Tu n'as pas le droit. Wallahu Akbar. Les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il y en a qui ont été annoncés, Mubashirin, Bil Jannah, il leur a été annoncé le paradis. Le prophète, n'en parlons même pas. Imaginez-vous, le prophète, il a voulu, par rapport à ça, quand même, donner un exemple. Il a voulu donner l'exemple. Le prophète, en sorte somme, il était pardonné et quand il priait les surérogatoires, même le tarawih, les surérogatoires de la nuit, c'est connu. Hein, il saignait des pieds. Il saignait des pieds. Il était pardonné. Mais alors nous? Mais alors nous? On va le voir à la suite dans les cours du Ramadan, les assises de Ramadan. Que ici, la prière, le tarawih chez les compagnons, c'est incomparable avec notre mini tarawih aujourd'hui. Et malgré ça, on n'arrive pas à pratiquer un minimum. Wallah al-musta'an. Wallah, il faut se motiver. Il faut se motiver. C'est dur, on a des baisses, on a des remontées de foi, de pratique, de talab al-ilm. Je vous le dis, hein. Je vous le dis avec 20 ans d'avance sur vous, voire plus. Que même dans le talab al-ilm, l'étude de la science, t'auras des bas. Hein. Je suis pas là pour vous raconter des histoires. Il y aura des jours où c'est comme au boulot, tu diras, j'ai pas envie d'y aller. J'ai pas envie d'y aller. Mais la question, on appelle ça ta'arrud. Cheikh Abdelazak al-Badr, il nous dit dans ses cours, ça s'appelle ta'arrud. Ta'arrud, c'est comme les choses, ton nifs, il n'a pas envie de se lever le matin. Ton nifs, il n'a pas envie de prier le soir. Ton nifs, il n'a pas envie de jeûner. ton nifs, il n'a pas envie de faire le khair. Ton nifs, ceci. Ton nifs, cela. Mais c'est qui commande? Cheikh Abdelazak al-Badr nous dit, vous voyez, ça, c'est ce qu'on appelle sabaq al-lisan, hein, quand tu as envie de dire un sheikh, ou quand tu as envie de dire une chose, mais ta langue, elle est partie sur une autre chose, parce que tu étais habitué à prononcer cette chose. Sabaq al-lisan. Donc, c'est plutôt Ibn al-Qayyim, rahimahullah, comme vous le savez, nous dit, ton nifs, ou c'est toi qui commandes, ou c'est lui qui commande. Donc, même si tu n'as pas envie, et Cheikh Abdelazak al-Badr, là c'est bien, Cheikh Abdelazak al-Badr, il nous dit, par rapport à ta'arroud, tout ce que ton nifs, il n'a pas envie de faire, oh il fait froid, je veux rester dans la couette, oh ceci, la liste elle est longue. Hein. Cheikh Abdelazak al-Badr, regardez la justice d'Allah Ta'ala, la justice d'Allah Ta'ala, tu es récompensé quand tu as outrepassé, tu as battu ce ta'arroud là. Tout ce qui te dit non, fais le pas, non, reste, non, il fait froid, etc., etc. L'oreiller, il est moelleux, ne te lève pas le matin, ne prie pas le soir, c'est fatigant, je serai fatigué. Toutes ces choses-là, là, la prière, aller à la mosquée, là, tout ça, là. Donner de l'argent, oh, ça, c'est trop cher, il ne restera plus rien pour moi. Tous ces genres de ta'arroud. Plus tu tends vers le contraire et plus tu es récompensé. Tu es encore plus récompensé quand le matin tu t'es levé malgré que c'était dur, etc. Bien que, attention, hein, le nifs, barakallahu fikum, le nifs, les gens qui ont réussi à habituer leur nifs, ils ont moins de ta'arrut. Le matin, c'est automatique, il se lave instantané, il est tout vivace. Le shaitan ne lui a pas uriné dans l'oreille. Il n'a pas laissé le temps au shaitan, il a fait toutes les causes. Mais ça, c'est lorsqu'on n'a pas habitué son nifs, on est un peu fainéant, etc., que c'est encore lui qui a eu prise, eh ben, on est encore dedans. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit. On a dit que le talib al-ilm, et le musulman en général, et le talib al-ilm en particulier, il est à un niveau où il ne se contente pas des obligatoires. Donc la grosse faïda ici, c'est concernant le jeûne du Ramadan. Qu'est-ce qu'on avait dit comme traduction? Mieux que le terme jackpot, on avait dit quoi? Barakallahu fikum. Parce que je n'aime pas gros lot, barakallahu fikum. Gros lot. Barakallah. Parce que je n'aime pas ce terme jackpot. Je ne pense pas qu'il ne soit pas légiféré, mais il est utilisé. On ne doit pas ressembler au kuffar. Hein. Il est beaucoup utilisé dans le milieu des jeux, tout ça et tout. Et on sait que les jeux, c'est à éviter. Là. Comme mentionné dans le Coran, hein, les jeux de hasard, etc. Donc on dira le gros lot. On sait, voilà. Maintenant, mettez cette image dans votre cœur. On essaye de trouver, hein, la méthodologie des salafs et des prêcheurs qui sont éducateurs, c'est de trouver des mots qui sont forts, 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 pour faire réagir les gens en face. Alors dites-vous, en un mot, hein, en une phrase, le Ramadan, c'est le gros lot. C'est ça. Le Ramadan, c'est essayer de tirer le gros lot. Eh, excusez-moi, hein, si tu as réussi Laylat al-Qadr, tu as tiré le gros lot. Eh, il faut le dire. Subhanallah. Allah Ta'ala, il t'a mis des lots, il t'a dit c'est un tijara. Le Ramadan, c'est quoi le gros lot? Toi, tu es intelligent, tu vas essayer de tirer les gros lots. Tu veux 80 années et quelques de prière? Alors là, tu es pratiquement sûr que tous tes manquements, Inch'Allah Ta'ala, ils vont être effacés. Wallahu a'lam. Tu veux tirer ce gros lot ou tu cherches attention, on a dit que c'était tout important, mais c'est des miettes par rapport au gros lot. Tu cherches des miettes. Alors, on minimise pas. On a dit qu'il faut tout faire, même les miettes. Mais si j'ai à choisir, je prendrai d'abord le gros lot. Il doit être comme ça, le talibulay. C'est pour ça que les compagnons du prophète, les salafs, ils n'ont rien lâché. Ils n'ont rien laissé. C'est vrai qu'ils ont fait « La yukallifullahu nafsan illa wus'aha ». Ittaqullah kama istata'tum, mais craignez Allah comme vous le pouvez. Et Allah ne va pas te charger plus que tu ne peux. Mais fais le maximum. Comme ça, tu ne regretteras pas. Si tu n'as pas fait ton maximum, tu vas regretter. Et également, en parlant de baisse de foi, de comment on appelle ça, on a des périodes où on est déprimé, tout ce qui s'ensuit. On doit se motiver. Fais-le quand même. Fais-le quand même. Motive-toi. Tu seras bien content après. Parce que nous, on oublie. Et ça se cumule. Comme le dit Cheikh Abdelazak al-Badr, les hasanettes, c'est comme les mauvais péchés. Hein. Nous, on oublie. Une, deux, trois, quatre, cinq. Nous, on va oublier ce qu'on a fait, en bien ou en mal. On va oublier. Mais Allah Ta'ala, il nous dit dans le Coran, celui qui a fait un atome de bien le verra, celui qui a fait un atome de mal le verra. Et Cheikh Abdelazak al-Badr, il nous donne une parabole. Il nous dit, toi, tu oublies, mais c'est comme des brindilles. Tu prends une brindille, deux brindilles, trois brindilles, quatre brindilles. Au bout d'un moment, ça va faire un énorme tas pour faire un feu. Alors, saisissons l'occasion. Même si tu as du ta'arrud, des sortes d'empêchements qui te bloquent, force-toi, parce que sinon, un jour ou l'autre, on va regretter. Forçons-nous, moi le premier. Parce que sinon, il arrivera un jour ou l'autre où on regrettera. Et ce regret, il est mentionné dans le Coran. Ça ne vient pas de moi. C'est Allah Ta'ala qui nous en a informé qu'il y a des gens qui vont regretter. Et vous savez qu'Allah, en parlant de fawa'id, de faïda, vous savez qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, concernant les regrets, Allah Ta'ala, il nous a pas, on ne pourra pas dire qu'on n'était pas informé hein, concernant les regrets. Hein. Là, je viens de vous parler, nous venons de vous parler concernant les regrets en termes général, dans le Coran. Mais là, encore plus grave. Là, ce qu'il y a de plus grave, Allah Ta'ala nous a mentionné des gens qui vont regretter concernant ce qu'il y a de plus grave. Est-ce que vous vous rendez compte? Le polythéisme. Vous imaginez qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il nous mentionne des gens, dans le Coran, il nous mentionne des gens qui ont fait du polythéisme, qui seront en enfer, et qui diront Tallahi in kunna la fi dhalalin mubin idh nusawwikum bi rabbil alamin. Regardez, les polythéistes vont regretter le jour de la résurrection quand ils seront en enfer. Ils diront, je cite, qala Allahu ta'ala, par Allah, nous étions dans un égarement évident de là où nous avons associé, mis au même niveau, à l'égal Allah, nous faisions du polythéisme envers Allah subhanahu wa ta'ala. Idh nusawwikum. Taswiyat, c'est le fait de mettre au même niveau autre qu'Allah avec Allah. Imaginez-vous, concernant Naham, ça c'est un autre verset également, c'est un autre contexte où bien sûr on va leur demander. Où sont vos divinités que vous adoriez? Et on sait très bien que tout cela sera vain, dans le sens où même le shaitan, il va dire, moi je vous ai rien, oh là là. Toutes les fausses divinités et même le shaitan vont se désavouer le jour de la résurrection. Mais notre faïda ici, principale, c'est, regardez, Allah Ta'ala, combien à maintes reprises il nous a mentionné ceux qui vont regretter. Ceux qui vont regretter. Essayons de ne pas faire partie de ceux qui vont regretter. À la kulli hal, on regrettera toujours de ne pas en avoir fait assez. Mais au moins, faisons le maximum. Faisons le maximum. Et sachant que, comme on l'a dit, ce ramadan, c'est le jackpot, mais sachant également, pardon, excusez-moi, hein, ça ne va pas sortir, c'est le gros lot. C'est le gros lot. Donc, il faut prendre le maximum. Et on va voir dans un hadith à la suite que nous avons ici, Cheikh Al-Uthaymeen. Donc, en général, c'est mentionné dans la sunna, mais Cheikh Al-Uthaymeen, ici, il va nous mentionner des manières de toucher le gros lot. Cheikh Al-Uthaymeen, à travers la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va nous mentionner trois manières de toucher le gros lot. Vous allez voir. Je pense que vous vous en doutez un petit peu. Pardon. Alors, parmi celles-ci, les prières. Alors, on a parlé des rawatib. On a parlé naham des rawatib. Voilà, que je revienne à mon texte ici. Maghrib, etc. Ensuite, on a un verset, c'est ça. Hein? Naham. On a un verset. Waqala Allahu ta'ala. Puis, on a parlé parmi les rawatib de Salat al-Isha. Et ensuite, nous, le Cheikh Al-Uthaymeen nous a parlé des prières de la nuit. Comme quoi Allahu ta'ala a fait les éloges de ceux qui se tiennent. Qui se tiennent pour prier la nuit. Donc ce n'est pas rien, Sourate Al-Furqan, verset 46. Walladhina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Tatajafa junubuhum anil madaji'i. Madaji'. يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين plutôt أعين جزاء بما كانوا يعملون. Alors, et ceux qui passent les nuits prosternés et debout devant leur Seigneur. Ils s'arrachent de leur lit pour invoquer leur Seigneur par crainte et espoir, et ils font largesse de ce que nous leur attribuons, pardon. Aucun être ne sait ce qu'on a réservé pour eux comme réjouissance pour les yeux en récompense de ce qu'ils œuvraient. Nous avons également, à la suite, le Cheikh nous dit, à la suite de ces versets, Cheikh Al-Uthaymeen nous dit, Waqala, An-Nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, 64. Alors moi j'ai 46 ici, Sourate Al-Furqan 46, et ensuite j'ai Sourate, ça vient d'un verset 16 et 17. Moi, والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. Peut-être qu'ils ont fait une erreur ici, j'ai Furqan 46. D'accord, c'est vérifié, vous avez vérifié? Ah, d'accord. Barakallahu fikoum. Bah écoutez, moi, bah, vous voyez, hein, tantôt, subhanallah, cette fois-ci, c'est l'original en arabe qui. À moins que. Taïb, si vous avez vérifié, c'est bon. On va prendre cette version. Taïb, donc 64. Moi, dans mon ouvrage, j'ai verset 46. On rectifie. On met 64. Je n'ai pas le temps de vérifier. Hein. Taïb, le hadith du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui nous dit Afdalu salati ba'da al-faridati, salatu al-layl. La meilleure prière après l'obligatoire est la prière de la nuit. rapportée par Muslim. Naam. Puis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également dit: Ya ayyuhan nas ufshu afshu salam wa at'imu at'am wa silu al-arham wa sallu bil-layli wa an-nas niyamun tadkhulu al-jannata bi salam. Alors c'est ce hadith là dont je vous parlais, où il y a plusieurs fawaïd qui peuvent être considérés comme le gros lot. Alors, oh vous les gens, répandez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit: oh vous les gens, répandez le salut entre vous. Alors, ça c'est la première chose, c'est le premier gros lot. Comme vous avez pu le constater, miraran wa miraran, à plusieurs reprises et plusieurs reprises, dans les cours de comportement, on a insisté, on insiste sur le salem, le salut. On va même, inshallah ta'ala, expliquer dans le programme un livre de notre cheikh Al-Usaymi, sur différentes caractéristiques dans le comportement, et il y aura le salem. L'importance du salem. Regardez ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annexé le salem à l'entrée au paradis. Premier gros lot. Et pourtant, on a un manque immense concernant le salem. Personne ne peut le nier. On a un manque immense. Barakallahu fikum pour le hadith. On a un manque immense. Alors, profitons de ce ramadan pour se passer le salem légiféré. Je vous donne une faïda en plus. C'est que Cheikh Al-Uthaymeen, dans son explication du Sahih al-Bukhari, le chapitre du salem, il dit que ceux qui passent le salem, celui qui passe le salem uniquement à ceux qu'il connaît, ce n'est pas le salem de l'islam. Tu n'auras pas pratiqué le salem de l'islam. Et on sait qu'aujourd'hui, la plupart des gens passent le salem uniquement qu'à ceux qu'ils connaissent. Wallahu al-musta'an. Assalamu alaykum, professeur. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je voudrais savoir, est-ce que l'enfer aura une fin? Est-ce que la disparition de l'enfer peut être due à la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala? Barakallahu fiikum. Wallahu a'lam. Je n'ai pas de détails tout de suite, mais par contre, par rapport, ça veut dire que je n'ai pas un long détail large avec la maîtrise de tous les paramètres pour pouvoir donner une longue réponse large, mais par rapport à ce que nous connaissons, comment l'enfer pourrait avoir une fin alors que l'enfer est éternel. Wallahu a'lam, les gens qui entrent en enfer, y entrent. Il y a deux catégories d'entrée en enfer, bien entendu, chez les gens de la sunna. Il y a ceux qui vont y entrer temporairement, mais il y a ceux qui vont y entrer pour l'éternité. Donc, Allahu a'lam, à moins que j'ai un oubli, ou je ne sais pas, c'est la fatigue aujourd'hui, que j'oublie quelque chose, mais l'enfer est éternel. L'enfer est éternel. Vous confondez peut-être avec la mort qui va disparaître le jour de la résurrection, la mort qui sera immolée. Il y a des choses qui vont disparaître, mais l'enfer, pour les mécréants, tout ça et tout, c'est éternel. C'est éternel. Wallah alam, je ne me souviens pas avoir entendu qu'il y a une fin. Je vérifierai, inshallah ta'ala, mais moi je dis ce que je connais. Wallahu a'lam, wa fikum barakallah. Ou à moins que je n'ai pas compris la question, wallahu a'lam. Taïb. Donc, le shaykh nous dit le witr fait partie de la prière de la nuit. C'est pour cela. Alors une faïda ici. Oh, attends, on n'a pas fini le hadith. Hein. On n'a pas fini le hadith. En plus, il y a trois gros lots dans le hadith, voire quatre. Répandu le salut, on a expliqué. Donné à manger. Alors également, comme gros lot pendant le ramadan, c'est de faire des sadaqas. De faire des sadaqas, mais sadaqas particulières. La sadaqa mentionnée par le messager d'Allah dans ce hadith, c'est de donner, distribuer à manger. Alors, à travers les associations, à travers les dons, c'est comme vous voulez. MashaAllah, barakallahu fikum. Nourrir les pauvres, c'est comme vous voulez. Mais attention, on se comprend quand on dit c'est comme vous voulez. Hein. C'est comme vous voulez, en conformité avec la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. On évite les innovations. Naham. Donc, donner à manger. Également, nouer les liens de parenté. Le mois, donc, concernant le fait de donner à manger, on constate également qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, a annexé, on va dire plutôt le prophète, alayhi salatu wassalam, dans ce contexte, a annexé le fait de distribuer la nourriture au paradis, à l'entrée au paradis. Donc je pense que vous avez compris ce que ça veut dire. Que c'est une cause d'entrée au paradis. Donc ça, c'est un gros lot. On est d'accord que le gros lot ultime, c'est qu'on veut tous aller au paradis. Hein. Biznillah ta'ala, on veut tous aller au paradis. Nouer les liens de parenté, c'est la même chose. C'est la même chose. Pendant le ramadan, c'est connu, hein. Nouer les liens de parenté, etc. C'est toute l'année, mais on sait que pendant le mois de ramadan, les hasanettes, elles sont multipliées. Et prier la nuit quand les gens sont endormis. C'est pour cela que certains savants voient que prier la nuit et même le tarawih, c'est bien au troisième tiers de la nuit. Si vous préférez, je vous donne un exemple. À l'institut de Sheikh Mokbel à l'époque, donc à l'institut de Sheikh Mokbel, le tarawih, il était au troisième tiers de la nuit. On le faisait au troisième tiers de la nuit. Donc, les prières de nuit, comme vous pouvez le constater dans le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sont annexées à l'entrée au paradis. Ce qui signifie qu'il y a également un gros lot ici à tirer et il ne faut pas passer à côté. Alors, il y a une faïda, c'est que vous constatez que dans le hadith qui va suivre que le witr fait partie de la prière de la nuit. C'est pour ça qu'on dit 11 unités dans la prière de la nuit, parce que le witr, il est compris dedans. Ça, c'est une faïda au passage. Les trois fawaïd ici sont mentionnés, sont une cause d'entrée au paradis. Vous voyez pourquoi on insiste sur le salem. Tout cela a été mentionné. Le witr fait partie de la prière de nuit. Il se compose d'une unité minimum et de 11 unités maximum. Il est possible de ne faire qu'une seule unité en vertu de la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que celui qui souhaite accomplir le witr et avec une seule unité le fasse. Abu Daoud, authentifié par Sheikh Al-Albani, rahimahullah. Il peut aussi en faire trois en vertu du hadith. Que celui qui souhaite faire le witr avec trois unités le fasse, rapporté par Abu Daoud, authentifié par Sheikh Al-Albani. Donc la faïda ici, c'est que Le minimum pour le witr, c'est une. Le minimum. Il peut d'ailleurs prier ces trois unités d'une seule traite en ne faisant qu'une seule salutation en vertu du hadith rapporté par l'imam al-Tahawi. Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu accomplit le witr en faisant trois unités regroupées avec une seule salutation. Ça signifie que ce soit le witr ou le tarawih, tout entier, la prière de nuit, on peut commencer et on peut ne pas faire de pause entre les 5, 2 fois 5 plus 1. Taïb. Ça se fait. Ibn Khattab, radiallahu anhu, a accompli le witr en faisant 3 unités regroupées avec une seule salutation. Il est possible de faire 2 unités et de faire les salutations à Taslim. Puis de faire une unité en vertu du hadith rapporté par l'imam Bukhari. Abdullah ibn Omar saluait entre les 2 premières unités du witr et la dernière. Il avait ainsi le temps de donner quelques directives à son domestique. Donc, Inch'Allah ta'ala, cette quatrième assise, on va la faire en 2 fois. C'est-à-dire qu'on laisse le reste, Inch'Allah ta'ala, pour le cours prochain, demain, Inch'Allah, on continuera cette quatrième assise en vous mentionnant la parole de Cheikh Al-Uthaymeen rahimahullah et également en vous mentionnant des fawaïd qui vont avec. Si l'on fait le witr en 11 unités pendant le ramadan, cela est considéré comme qiyam al-lil, barakallahu fikum. Oui. Cela est considéré comme qiyam al-lil. Tout à fait. Wa fikum barakallah. Alors, dans la suite, ça sera la cinquième assise pour nous, mais dans la suite, Inch'Allah, dans la suite, le cours prochain, c'est pour vous mettre au parfum, wa fikum barakallah. On va parler des. Concernant la prière de la nuit, pendant le ramadan, et même, pendant le ramadan, le Cheikh Al-Uthaymeen va nous mentionner les différents avis, on va voir qu'il y a une grosse divergence. On va voir qu'il y a une divergence sur la manière de, c'est-à-dire le nombre de raka'a concernant Tarawih. On verra dans le cours prochain, et là il faudra appliquer ce qu'on a appris tout récemment dans les cours de comportement, à savoir comment, si vous vous rappelez, si vous vous souvenez, c'est tout frais, c'est en ce moment dans les cours de comportement, comment on doit se comporter face à la divergence. Comment on doit se comporter. Et on doit se comporter comme se comportaient les compagnons. C'est pour ça qu'à la Mecque, pendant le Tarawih à Mecca, vous allez trouver à peu près le Tarawih à peu près une vingtaine de raka'a, et que dans d'autres mosquées dans le monde entier, vous verrez qu'ils font 11. On expliquera cette divergence dans le cours prochain, Inch'Allah ta'ala. Vous pouvez commencer, pour ceux qui ont l'ouvrage ou le PDF, à lire tout seul. Comme ça, vous ne resterez pas dans un suspense. Vous n'allez pas rester dans un suspense. Ala kulli hal, c'est connu, selon le hadith de Aïcha, radiallahu anha, les savants disent ce qu'il y a de plus prépondérant et ce qu'il y a de plus authentique, c'est que c'est 11 rak'a. Mais on ne va pas faire la guerre à quelqu'un qui en fait 20. À la Mecque, ils en font 20. Du moins, à l'époque, il y a une dizaine d'années, lorsque j'ai fait la Omara, je ne sais pas si ça a changé. Moi, à l'époque, quand j'avais fait la Omara, c'était 20, à peu près une vingtaine de raka. Donc, si vous avez des questions concernant le jeûne et que nous avons la capacité d'y répondre, allez-y, profitez-en. Sinon, on va remettre ce cours à plus tard. Toutes les questions qui ont été posées pour le jeûne, Afwan, elles ont été posées sur le site. Normalement, on a répondu à toutes les questions. Normalement, Inch'Allah ta'ala, sauf par oubli ou autre, on a répondu à toutes les questions. On va laisser quelques minutes. Et s'il n'y a pas de questions, nous allons clôturer ce cours. بارك الله فيكم. Donc ceux qui ont des baisses de foi pendant le Ramadan, alors les baisses d'énergie, c'est normal, hein. Je pense que c'est un petit peu tout le monde, du moins la majorité, les baisses d'énergie à un certain moment, c'est normal. Mais il y a une différence entre ton énergie vitale, l'énergie de ton corps, et l'énergie qu'il y a dans ton cœur. Comment se fait-il qu'une personne âgée de 80, 90 ans, qui lui, il a pareil, un gros manque d'énergie, et il fait plus que certains jeunes qui ont une grosse, 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 grosse énergie. Les savants ont expliqué ça. Cheikh Abdel Razak Al-Badr, Hafidhahullah, a expliqué ça. Il dit que c'est parce que lui, son énergie, elle est dans son cœur. L'énergie vitale de son cœur, elle est plus forte que les jeunes. Sa motivation, son énergie vitale. Ben, pendant le Ramadan, c'est la même chose. C'est pas parce que ton énergie physique, elle est diminuée, que ta foi, ta motivation, elle doit être diminuée. Ça joue, c'est vrai, ça joue quand on est diminué physiquement. On a du mal à faire ce qu'on pourrait faire en temps normal. C'est pour ça qu'il y a beaucoup, parmi les gens de science, pendant le Ramadan, ils ne donnent pas de cours, etc. Ils ne donnent pas de cours, il n'y a pas de cours, ils se concentrent sur les adorations, etc. Mais il faut quand même se fixer un minimum. Il faut se fixer un minimum. Il y a une barrière, une sonnette d'alarme, qu'il ne faut pas franchir. Il y a un minimum qu'il ne faut pas franchir, outrepasser. Attention, le Ramadan, il y a un minimum quand même. C'est pour ça qu'arriver les 10 derniers jours, fatigué, pas fatigué, dégoûté, pas dégoûté, entre parenthèses, lorsqu'on dit dégoûté, c'est-à-dire déprimé, etc. Les 10 derniers jours, c'est les 10 derniers jours, je ne peux pas passer à côté du gros lot de la Laylat al-Qadr. C'est pas possible. La nuit du destin, si on peut traduire comme ça. C'est pas possible. T'as pas le droit. C'est pas possible. C'est de la folie de passer après à côté de 80 années. Et Allah Ta'ala, il a facilité la religion. T'es pas obligé d'aller à la mosquée, que ce soit pour l'homme ou pour la femme. C'est pas obligatoire de faire le tarawih à la mosquée. Tu peux le faire en famille chez toi. Tu peux veiller la nuit, pas forcément en prière. Tu peux étudier, réviser tes cours, chercher une question religieuse. Les savants ont dit juste ce qu'il faut. Laylat al-Qadr, c'est que tu sois dans le rappel d'Allah. Et l'étude de la science, le talab al-ilm, il en fait partie. Aller donner à manger à des pauvres, être dans l'aide de ton frère, c'est juste ta niya qui compte. C'est juste ta niya, ton intention. Même si tu es allongé, tu pries allongé parce que tu ne peux pas prier, tu pries allongé. Tu fais du dhikr, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah il azim. Et surtout, n'oubliez pas, barakallahu fikum. Surtout, j'insiste, n'oubliez pas l'invocation pendant le Ramadan. Alors, on entend cette invocation que les 10 derniers jours, mais en vérité, c'est tout le Ramadan. Parce que c'est l'invocation la meilleure pendant le Ramadan. Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Tayyib. Donc, qu'y a-t-il sur le chat ici? Assalamu alaikum, j'aimerais savoir, est-ce que l'enfer, on l'a déjà vu, nourrir les pauvres pendant le mois de Ramadan est une tradition? Naam, si on fait le witr, on a répondu. Professeur, y a-t-il une invocation pour faire fuir les mauvaises pensées? Parfois, nous pouvons nous dire qu'on n'aura pas assez le temps pour apprendre suffisamment et aller à la tombe avec trop peu de bagages, ça fait peur et ça peut provenir que de Shaitan, à mon avis, du coup. Et je demandais s'il y avait une invocation spécifique à évoquer. Barakallahu fikum. Oui, c'est un stratagème du Shaitan, ça. Faites le maximum. Écoutez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui a la niya de lutter dans le sentier d'Allah, mais qui ne l'a pas fait, mais il avait la niya, et qui meurt dans son lit, il sera mort comme un martyr. Ça veut dire quoi? Que c'est votre intention, faites le maximum. Allah Ta'ala, parce que, juste parce que vous avez eu une bonne intention et que vous avez été sincère, Allah Ta'ala, il peut vous donner, ne vous imaginez pas que vous n'avez pas fait assez, vous serez étonné le jour de la résurrection. Il y a une personne, elle va arriver, elle aura juste une carte sur la balance, que des péchés, des registres et des registres que l'on voit, que l'on aperçoit à l'horizon. 99, si je me souviens bien, registres. La personne, elle se dit, excusez-moi du terme, c'est fini pour moi, c'est terminé pour moi. C'est terminé pour moi. Et on arrive, on lui sort une carte sur la balance et il va au paradis. Cette carte, une fois il a dit « La ilaha illallah ». Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, subhanallah. Ça, c'est le stratagème du shaitan. Nourris un chat aujourd'hui. Donne à manger à un chat. Donne à manger à un pauvre. Donne à un blouson que tu ne mets plus à un SDF. Envoie de l'argent pour un puits. Parce que l'eau, c'est la meilleure sadaqa, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'invocation, moi, ce que je peux vous dire de ce que je connais, l'invocation, c'est demander la protection d'Allah contre le shaitan le bani. Ça, c'est Allah alam, c'est la meilleure invocation pour les waswas. Wasawis. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Wallahu a'lam, ce que j'ai en tête à l'instant. D'après Abu Hurayra radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les gens les plus en droit de mon intercession le jour du jugement sont ceux qui disent la ilaha illallah avec un cœur sincère. Barakallahu fikum, vous voyez? Dites juste la ilaha illallah. Il n'y a pas mieux comme invocation, comme rappel. La ilaha illallah. Avec une sincérité, avec... Ouvrez votre cœur, troisième tiers de la nuit. Si vous pouvez pleurer, c'est encore mieux. Celui qui peut pleurer, c'est encore mieux. La ilaha illallah. Donc, je sais qu'on aimerait bien rester encore longtemps et à parler sur le rappel d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Également, les savants disent, on va le voir avec Sheikh Al-Uthaymeen, les assises de science. C'est une cause d'entrée au paradis également pendant le ramadan, hein, les assises de science. C'est de la sadaqa aussi. Donc voilà, en tout cas, on vous remercie pour votre participation, pour votre présence également. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse tous entrer au paradis et qu'il fasse de ce ramadan une cause, une énorme, immense cause de réussite pour nous tous et qu'il nous fasse entrer au paradis. نعم وأمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم أدمان إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.